Nous qui sommes, par goût et par profession, des serviteurs passionnés de cet art multiple qui se nomme la radio, nous déplorons bien souvent ces abus. Et ce que j'entends par là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'horrible cacophonie dont souffrent si souvent nos rues, nos cours ou nos squares, lorsque 10-15 appareils déversent en même temps, branchés qu'ils sont, cela n'est pas rare, sur des postes divers, un concert, les informations, un radio-reportage et quelques terribles solistes dont le fidèle, pour dominer les autres sons, pousse encore à l'extrême la voix qui devient suraiguë. Et même s'il ne s'agit pas de cette horrible et générale cacophonie, épargnez de grâce sans filistes mes frères, épargnez les oreilles de vos voisins. Vous n'avez pas le droit de leur infliger un concert s'ils n'aiment pas la musique, ou les dernières nouvelles, si d'aventure la situation du monde les laisse indifférents. Autre chose, si même certains sans filistes n'ont pas la délicatesse d'épargner les tympans d'autrui, que ce soit donc pour eux qu'ils jouent moins fort. En poussant le bouton à l'extrême, ils font preuve d'une déplorable absence de goût personnel. À ce sujet, quelqu'un dont l'autorité dépasse singulièrement la mienne va vous adresser quelques mots. Voici le maître en sermet, chef de l'orchestre de la Suisse romande.
Lorsque passant dans la rue, j'entends décuplé par un haut-parleur le son d'un quatuor, ou l'entente d'une symphonie, ou simplement le chant gracieux d'une valse de Strauss, je tremble vraiment et suis saisi d'angoisse pour le destin de la musique. Que diriez-vous, chers auditeurs, si ayant à communiquer un secret ou tout simplement à adresser quelques paroles que vous voulez persuasives à une personne pour qui vous avez des égards, vous vous aperceviez tout à coup que par je ne sais quelle conjuration de parois résonantes, votre voix est devenue âpre, sifflante, tonitruante et agressive. Vous vous sentiriez trahi. Vous sentiriez votre message irrémédiablement compromis et vous maudiriez le sort. Eh bien, croyez-le, c'est ce qu'éprouvent les musiciens devant les fenêtres ouvertes et les lieux publics d'où débordent les haut-parleurs. D'abord, il est entendu que ce renforcement artificiel de sonorité les déforme et les travestisse, et c'est ce que vous dira excellemment mon ami Jean-Marc Pache. Mais je voudrais insister sur un autre aspect de la question. Dites-vous bien, chers auditeurs, que ceux qui font de la musique à la radio respectent leur public, font cette musique de tout leur cœur et y mettent tout le soin possible pour que son expression soit celle qu'il faut et non une autre. Et la musique agit par le charme, par la persuasion, au besoin par l'éloquence, mais non par la contrainte. Gardez-vous au nom du ciel de la faire évoquer le passage des temples. Et puis pensez à ceci. Quoique la musique touche en même temps une foule d'auditeurs, elle s'adresse à chacun en particulier. Lorsque vous êtes dans une exposition de peinture, vous n'aimez guère que quelqu'un se plante devant vous au moment où vous regardez un tableau, et vous choisissez de préférence le coin où il n'y a personne pour jouir de cette peinture comme si elle n'était là que pour vous. Et au concert, si vous avez plaisir à communiquer avec vos voisins pendant les intervalles ou les entr'actes, au moment de l'audition, vous vous renfermez en vous-même et écoutez la musique comme si elle n'était faite que pour vous. Eh bien, si la radio a accompli ce miracle de porter la musique aux confins d'un monde, elle n'en a pas changé la nature, ni l'essence, ni le caractère. Elle entend lui faire porter son message à chacun personnellement. Pourquoi ne pas jouir de cette illusion charmante que cette musique qui vous arrive était faite pour vous tout seul? Et pour cela, fermez vos fenêtres et même vos portes et fixez votre appareil au degré de force qui non seulement sera juste, mais sera tel qu'il vous parlera comme un ami.
Merci, mon cher maître. Après monsieur Ensermé, voici notre grand spécialiste de musique enregistrée. Je parle pour l'instant du programmiste de Radio Genève et non du virtuose, Jean-Marc Pache. Votre opinion, cher ami.
Aux paroles que vient de prononcer le chef de notre orchestrement, je me permettrai d'ajouter quelques mots qui concerneront plus spécialement les concerts de musique enregistrée. Là encore, un mauvais réglage de l'appareil récepteur constitue une trahison à l'égard de la musique. Les débauches de sonorités auxquelles se livrent nombre de sans-filistes, tout spécialement durant la belle saison, sont non seulement désagréables pour leurs voisins, elles dénaturent complètement les émissions. Savez-vous, mon cher Poulain, les constatations navrantes que je fais presque journellement?
Non, dites-nous ça.
Chargé de programme... D'un programme de musique légère, le programmiste, je m'excuse en passant de ce barbarisme d'origine radiophonique...
C'est moi qui ai commencé.
Le responsable des concerts de disques croient avoir réalisé un groupement agréable de musique légère, aimable et sans prétention. Vous imaginez sa stupéfaction lorsque, passant à l'heure du concert sous les fenêtres de certains symphonistes peu discrets, il constate que le concert léger s'est transformé en un véritable torrent de musique, une avalanche de sons d'où toute harmonie est exclue. Toutes les nuances sont perdues, les effets d'orchestration ont disparu. La phrase que le violon chantait amoureusement sur sa corde de sol s'est transformée en un unisson de trombone tonitruant. La voix transparente et légère d'un soprano coloratour évoque les sirènes, non les mystérieuses sirènes évoquées par Debussy dans ses merveilleux nocturnes, mais les sirènes d'alarme. Ces symphilistes qui font bénéficier, si j'ose dire, tout le quartier de leur réception, me font penser à des consommateurs dont le principe serait « peu importe la qualité, pourvu qu'on ait la quantité ».
Oui. Merci, mon cher Jean-Marc Page. Et nous terminerons par l'avis autorisé du régisseur du son de Radio Genève, notre érudit Ramseyer, ingénieur.
Merci pour l'érudition. Et oui, moi aussi, Poulain, j'ai à me plaindre des auditeurs. Ah. Et en tant que metteur en ondes, vous savez que le travail de la mise en ondes, je parle ici des jeux radiophoniques, consiste à équilibrer les sonorités, équilibrer les voix des acteurs qui, eux, doivent jouer avec le microphone et abruiter les jeux. Ce bruitage se fait tantôt en direct, dans le studio même, tantôt au moyen d'enregistrement. Mais là n'est pas la question. Un exemple simplement du bruitage. Vous savez, ce n'est plus un secret maintenant, que pour donner l'impression du bruit du feu, on froisse devant le microphone une feuille de cellophane. Or, si vous froissez cette feuille très près du microphone, vous obtiendrez un bruit énorme qui rappellera par exemple le bruit du passage d'un chemin de fer, d'un train. Si vous mettez trop loin du microphone, vous aurez un tout petit bruissement de feuilles mortes qui n'aura plus rien du tout de commun avec le bruit qu'on cherche à évoquer. Il faut donc doser exactement la distance au microphone et par là même l'intensité du son. Ce que nous cherchons à réaliser devant le microphone peut être absolument faussé par l'auditeur qui, en réglant son haut-parleur trop fort, donnera précisément le bruit du passage d'un train au lieu du bruit discret des feuilles brûlant et des branches craquant sous le feu. Tout ce travail de mise en place, d'équilibrage, est extrêmement minutieux et nous le réalisons à l'aide de répétitions qui sont parfois fort longues. Pour un jeu radiophonique devant durer une demi-heure, nous arrive fréquemment de passer 5 heures devant le microphone à mettre tout ça au point. Tout ceci laisse entendre que l'auditeur doit donc jouer avec nous, non pas seulement de sa sensibilité et de son intelligence, mais aussi par la manière de traiter son haut-parleur. L'émission est réglée pour une intensité moyenne, c'est-à-dire pour une intensité normale du champ sonore dans lequel l'oreille sera plongée. Un champ sonore trop puissant déforme les timbres, fausse l'équilibre de l'échelle sonore, met en branle tous les éléments vibrants environnant le haut-parleur. D'où cacophonie impossible dont mes prédécesseurs vous ont déjà parlé. Quant à l'effet de la voix, de l'intensité sur le timbre, vous en aurez l'exemple par ce que je vous dis en ce moment. Je parle d'une voix tout à fait normale, sans varier d'intensité. Je suis actuellement environ un mètre du microphone. Si je me rapproche du microphone, parlant toujours de la même intensité, je peux arriver à parler très près du microphone et vous constatez que le timbre de ma voix a complètement changé, pas pour vous, Fred Poulain, mais pour l'auditeur qui entend le disque qui tourne en ce moment.
C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Merci beaucoup, mon cher Anatole. Plaise au ciel maintenant que notre cause soit entendue. Vous voyez, auditeurs, auditrices, que nous ne vous demandons aucune solution extrême. On raconte qu'un monsieur indigné, bien à tort, des remarques que lui faisait un gendarme alerté par les cascades sonores qui s'échappaient de son logis, s'empara de son appareil et d'un seul coup d'un seul le brisa sur le parquet. Et là, n'en faites pas tant de grâce. Mais jouez doucement, rien que pour vous. Ou fermez vos fenêtres, ou les deux choses à la fois, c'est mieux encore. Ainsi, vous ferez preuve de goût et, qu'il me soit permis de le dire, de bonne éducation.